Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Vous entretenir d'une parole réparatrice. Eh oui. Alors la parole de Dieu, elle est toujours réparatrice. Parce que s'il est venu, c'est parce qu'il a vu l'état du monde. Et il a vu dans quel état, eh bien, les hommes s'étaient endommagés. Et le message de l'Évangile, c'est un message réparateur. Et qui dit parole réparatrice, ça suppose une intervention. On peut le dire comme ça, si vous voulez. Ça suppose une intervention pour rétablir, pour restaurer, pour remettre en état ce qui a été cassé, ce qui a été endommagé ou tout simplement eh bien, dégradé. Alors, on va prendre un texte dans la Bible où nous nous trouvons dans une situation, nous allons découvrir une situation où le Seigneur voudrait réparer ce qui a été endommagé. Nombre, chapitre 12. Nombre, chapitre 12, s'il vous plaît, verset 1er, et nous allons commenter ce passage. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?» Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, « Allez, vous trois, à la tente d'assignation. » Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. » Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'il ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je te prie, guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours dans un objet, comme un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. » Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y soit rentrée. Après cela, le peuple partit de Hatzéroth, et il campa dans le désert de Paran. Que Dieu nous bénisse. Alors, pour éviter toute confusion avec des personnes connues qui porteraient le nom de Marie ou de Myriam, puisque c'est le nom hébreu, je préfère dire qu'il n'y a pas d'association. Comprenez pourquoi ? Je prends mes précautions. Alors, Marie, ou Myriam, comme vous voulez, nous met en face d'une réflexion assez intéressante. C'est une tentation très humaine, oh oui, très humaine, aux conséquences toujours certaines. Il nous est dit que, dans le texte hébreu, Myriam critiqua Moïse et fut frappée de lèpre par Dieu. C'est une situation épouvantable. Imaginez-vous ce qui se passe à travers une simple parole. Eh oui, les simples paroles que l'on peut dire, dont on ne mesure pas toujours la portée. Dans la traduction rabbinique de « Je me sers souvent », il est dit que Marie a médit contre son frère. Elle a dit du mal. Et dans notre texte à nous, il nous est dit simplement qu'ils parlèrent ensemble contre Moïse. Il s'agit bien de Marie au départ, qui entraînait Aaron contre Moïse. Alors, on va découvrir ce qui se passe. Mais permettez-moi avant de dire une chose en ce qui concerne Myriam. Myriam est une femme sincère et elle est fervente. Et je vais vous en donner la preuve. N'est-ce pas elle qui a sauvé son petit frère Moïse des eaux à sa naissance? Vous connaissez l'histoire qui nous est rapportée quelque temps avant, où un petit garçon était né du nom de Moïse, et comme il y avait un ordre de ce tyran roi d'Égypte, Pharaon, d'exterminer tous les enfants mâles, eh bien, cet enfant devait disparaître. Et puis là, comme ses parents avaient vu qu'il était beau, mais tous les enfants sont beaux, il n'y a pas de problème. Mais il y avait une beauté particulière, certainement, sur Moïse, qui n'avait d'égal que le plan que Dieu avait réservé, non seulement pour Moïse, mais pour tout son peuple, par la suite. Et on s'aperçoit que c'est Myriam qui a recueilli, qui a vu, qui a recueilli un peu plus loin, en aval, sur le Nil, eh bien, ce petit garçon qu'elle connaissait bien, c'était son frère, qui était dans un panier, d'osier, qui flottait. Et elle était le reporter à sa maman. Après avoir été découvert naturellement par la fille de Pharaon, vous connaissez l'histoire. Mais c'est aussi cette Myriam qui a chanté le cantique de délivrance au sortir de la mer Rouge. Elle a pris un tambourin avec d'autres instruments. Elle a réuni toutes les femmes et filles d'Israël pour célébrer à la gloire de Dieu, eh bien, ce miracle, ce prodige. Et elle était véritablement un chef d'orchestre extraordinaire, imaginez-vous. Moitié de la population du peuple, donc les femmes, jeunes filles, tous rassemblés derrière Myriam pour chanter ce cantique à la gloire de Dieu. On peut dire que Myriam est une leader, une femme avec une autorité, mais qui n'est pas une autorité comme cela. C'est une autorité qui est donnée par Dieu quelque part. Mais ceci nous amène à cela. C'est que faisons bien attention que malgré notre consécration, malgré nos expériences dans notre histoire et notre passé, malgré voire même notre ancienneté dans l'Église ou dans le peuple de Dieu, parce qu'il semblerait qu'elle soit l'aînée en quelque sorte de cette famille, frères et sœurs, permettez-moi de dire que nous ne sommes pas à l'abri et que nous ne serons jamais à l'abri, finalement, de tomber dans le piège de la critique. Et qu'après avoir peut-être fait des choses formidables, nous pouvons être, eh bien, les auteurs de critiques, nous-mêmes. Nous pouvons nous laisser aller à cette faiblesse, à critiquer parce que des situations, parce que des états, parce que des gens ne nous plaisent pas. On le voit dans le cas de Myriam. C'était pas n'importe qui en Israël. Son grand frère était le souverain sacrificateur, il s'appelle Aaron. Son petit frère, qui n'en est pas petit, pour autant, c'est Moïse, c'est le conducteur, législateur, l'homme choisi par Dieu. Et puis elle, elle fait partie de cette famille glorieuse, on peut dire, une famille formidable, une famille consacrée, avec des expériences formidables. Et pourtant, elle va aller se laisser aller à dire des choses qu'il ne faudrait pas dire. Parler mal d'autrui, alors, on va voir un peu les choses ce matin, mais pourquoi le faisons-nous? C'est vrai, on se dit, ben voilà, un tel, une telle, moi-même. Mais pourquoi je le fais finalement? Quelles sont mes raisons profondes de critiquer, de parler mal contre quelqu'un? Et dans quelle intention? Je le fais, mais pourquoi? Parce qu'il y a un but à atteindre, parce que j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, au regard des autres, à l'écoute des autres. Pourquoi je le fais? Alors la raison première, je dis bien la raison première, mais qui n'est pas la vraie raison, Moïse, nous avons lu, Moïse avait épousé une femme éthiopienne. Quelle belle affaire qu'un homme épouse une femme. Elle devait être noire, les Éthiopiens sont des noirs. Mais qu'est-ce que ça pouvait faire? Après tout, c'est quand même Moïse qui avait choisi. C'est quand même, eh bien, son choix. Alors, c'est ce que nous avons lu. Et c'est un choix qui ne plaît pas. Ah! Vous savez, quand on marie nos enfants, c'est quelquefois toujours, pas toujours facile. Parce que papa aurait voulu choisir comme ça, maman aurait voulu choisir comme ça, et puis finalement, votre fils ou votre fille a choisi complètement différemment. Qu'est-ce qu'on fait alors à ce moment-là? Ben oui. Les histoires de mariage. C'est pas évident, hein. Et ça, c'est devenu un sujet, un prétexte de mécontentement qui fait parler, qui fait palabrer, qui fait discuter. Et je peux vous dire que dans la maison d'Aaron, Moïse et puis Marie, ça devait y aller bon train. Et quand la femme éthiopienne devait arriver, on devait dire « Ah, 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 c'est l'étrangère hein. !» On devait dire des choses. On devait peut-être faire des commentaires, peut-être sur son petit accent, sur la couleur de sa peau. Et puis, elle nous a invités chez elle. Hein. Pas terrible, les cuisines. Hein. Non, mais de toute façon, tout est bon. Hein. Et voilà. Mais permettez-moi, frères et sœurs, de vous dire que ce n'est pas le problème. Parce que le fond du problème, de la question, le fond de la question, pardon, la voici, c'est la suivante, c'est ce qui est dit après. Est-ce seulement par Moïse que Dieu parle? Aaron, souverain sacrificateur, il se dit, moi, c'est moi le premier. Marie qui se dit, avec le passé que j'ai eu, dis donc, le petit Moïse, s'il est là aujourd'hui, c'est quand même grâce à moi. Naturellement. Et chacun y va un petit peu, avec au fond de son cœur un petit peu de choses qui démangent, qui grattent. Et on se dit, mais est-ce seulement par Moïse que Dieu parle? Est-ce que ce n'est pas aussi par nous-mêmes hein? Il n'y en a pas que pour Moïse quand même, il ne faut pas exagérer. La vraie raison, frères et sœurs, est d'ordre spirituel. Ce n'est pas l'alliance de ceci et cela. Bon, ça fait partie de la vie, d'accord. Et encore, on devrait être un petit peu plus tolérant parfois. Mais c'est d'ordre spirituel parce que si le choix de choisir une Éthiopienne, c'était le choix de Moïse, la deuxième chose, c'est que finalement, Moïse avait été lui choisi par Dieu et c'était le choix de Dieu qu'ils étaient en train de contester. Comment se fait-il que quelque part, Dieu ait choisi Moïse et que Dieu parle par Moïse et non pas par nous. Et c'était un choix qui n'était pas accepté dans la famille, tout simplement. Et permettez-moi déjà de répondre un petit peu, c'est que le mobile du mal parlé n'est que tristement la jalousie et la rivalité. Et ça, c'est triste. Quand au fond du cœur des enfants de Dieu, des chrétiens, il y a là, quand on regarde un petit peu et qu'on y trouve la jalousie et la rivalité, je me dis, c'est triste. C'est qu'on n'a jamais lu la Bible. C'est qu'on n'a jamais entendu Jésus nous dire, « Je vous ai aimé, alors aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. » Et puis bien d'autres citations comme ça. Myriam et Aaron ont laissé l'amertume envahir leur cœur et leur esprit, au point que Moïse, leur propre frère, c'est pas un étranger, c'est leur propre frère, est rejeté d'eux, et ils n'acceptent pas de le voir au-dessus d'eux. Surtout que c'est le plus jeune. Mais vous savez que Dieu a fait souvent ça. Hein. Vous connaissez Eliab dans la famille d'Isaïe, qui était le plus grand, le plus beau, le plus admiré, c'était l'aîné. Et quand Dieu a dit à Samuel d'aller choisir le roi d'Israël, il n'a pas pris le premier, il a pris le dernier. Celui qui n'était même pas présent. Alors, il y a des surprises avec le Seigneur. On se dit, mais celui-ci, mais qu'est-ce qu'il fait là, finalement? Il n'a pas d'envergure, il ne sait pas parler, il ne sait rien, rien du tout. À côté de moi, je suis quand même. Il y en a un qui s'est retrouvé au bout d'une corde avec ça. Vous savez, dans les livres d'Esther, Aman, il avait des idées tout à fait particulières. Au lieu de monter sur un cheval, il montait sur une potence. Il s'était trompé, tout simplement. Voilà. Et il n'acceptait pas de voir Moïse, eh bien tout simplement, être le chef d'Israël. Mais ils avaient tous une position. Quand on voit Aaron, souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il pouvait être de plus? Dans les faits, selon la volonté de Dieu, et j'insiste là-dessus, selon la volonté de Dieu, Moïse a la prééminence spirituelle sur tout Israël, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, à ses frères, à son frère, à sa sœur. Et ça, ça les rend jaloux. Quand quelqu'un cherche la première place, et là c'est de l'application pratique pour nous, quand quelqu'un cherche la première place, ou à être en vue, ou à être reconnu, virgule, s'il n'a pas renoncé à lui-même, et là c'est important, s'il n'a pas fait véritablement le don de sa vie entièrement, de ses idées, de ses pensées, et de ce qu'il est dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, dans sa conscience, s'il n'a pas renoncé à lui-même, alors à ce moment-là, on peut s'attendre à ce qui va suivre. Son cœur va s'aigrir, son cœur s'aigrira forcément, et ses lèvres critiqueront quand quelqu'un d'autre passera devant lui. Est-ce que vous aimez vous faire doubler en voiture? Bon, vous n'avez pas besoin de me répondre, hein, parce que moi, ça ne me regarde pas. Un jour, si je porte le képi, je surveillerai, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Alors, c'est ça le problème. Voir quelqu'un qui vous double et qui passe devant vous. Et c'est vrai qu'on n'aime pas trop ça. Parce que ça génère un sentiment qui est propre à l'homme, on appelle ça de la frustration. Et ça, on ne l'avoue pas. Hein. On fait mine d'être heureux, on fait mine d'avoir le sourire, on fait mine de ceci et cela, etc., etc. Mais quelque part au fond du cœur, parce que le Seigneur le voit, lui. Il le sait, le Saint-Esprit le sait. Et c'est bien, il dit, tu souris, mais c'est jaune. Hein. Pas besoin d'être chinois pour ça, mais... Et c'est là, après, qu'on cherche des chinoiseries à tout le monde. La frustration. Dieu veut nous libérer de la frustration de nos cœurs, de nos personnalités, de nos caractères. Vous êtes d'accord? Eh bien, vous allez y passer. Vous avez dit d'accord. Eh oui, parce qu'on est tous pareils, hein, quelque part. Hein. D'une manière ou d'une autre. Hein. Pauvre Moïse. Ah oui, je dis pauvre Moïse. Parce que lui, il n'avait pas choisi sa position. Et c'est ça, justement, ce qui est assez étonnant. C'est qu'il y a des gens qui se mettent toujours en avant en disant « c'est moi, vous ne voyez que moi, parce que je suis là. » Et puis, il y a des gens que Dieu met en place et qui se sont cachés derrière les bagages. Vous connaissez, à une certaine époque, le roi Saül. Hey, où es-tu, Saül ? Plus personne n'entend parler de lui. Il s'était caché. Après, il a changé d'avis. Hein. Je peux vous dire que il s'est mis en avant. Mais toujours est-il que je dis, mais le pauvre Moïse, parce que c'est là où il était, c'est pas lui qui l'avait mis là. Au départ, il voulait y aller, quand il avait 20, 30, 40 ans. Il a dit, Seigneur, hein, tu peux y aller, moi, tu peux compter sur moi, je vais te faire sortir le peuple, tu vois, je vais régler les problèmes, je suis prince d'Israël, avec toute la considération que je peux avoir, ça va marcher. Là, il tue quelqu'un. Et puis, il va se retrouver pendant 40 ans dans le désert, aller garder des brebis. Remarquez, garder des brebis, ça peut être aussi un très bon apprentissage quand on arrive à une position de dignité après, parce qu'on ne garde plus les brebis, on garde des hommes. Mais ça revient au même, hein, c'est toujours un troupeau, et avec aussi tout ce qui peut se passer tout autour, hein, ça c'est sûr. Et nous voyons que, surprise, l'opposition contre Moïse naît avec sa propre famille. Ah, famille, je vous aime. Vous avez entendu parler de ça? Sa propre famille qui va l'attaquer en règle. Et là, ils ne vont pas lui faire de cadeau. Ouais. Le petit Benjamin, là, tout Moïse qu'il est, même si Dieu s'est servi de lui pour ouvrir la mer Rouge, pour faire capituler Pharaon, eh bien, tu vas voir que tu as peut-être fait des choses à l'extérieur, mais dans la maison, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Et ils vont lui en faire voir. Hein. Mais remarquons ceci, parce que le texte est très parlant. Or, Moïse était un homme fort patient. Il y a une autre traduction qui nous dit qu'il était fort doux. Il était fort patient, plus qu'aucun autre sur la surface de la terre. Il l'avait appris. Il n'était pas devenu, enfin, il était devenu patient, mais il ne l'était pas par nature, parce que quand on est criminel et qu'on tue un homme sous impulsion, c'est ce qui s'était passé 60 ans avant, ou peut-être 80 ans avant, c'est qu'on n'est pas doux, hein. Mais il l'avait appris. Et il avait appris à supporter la folie ou le mal que lui infligeaient les autres, en l'occurrence ses propres parents, parce que simplement, il était à la place où Dieu le voulait. Et quelquefois, nous vivons des choses assez étonnantes, et il faut le savoir, il faut s'en souvenir, c'est que parfois nous sommes exposés à certaines revendications, certaines bousculades, certains jugements, certaines critiques, certaines choses assez difficiles, il faut le reconnaître, que peuvent nous infliger autrui parce que nous sommes à la place que Dieu, là où Dieu nous veut. Et qu'est-ce que vous voulez faire autrement? Seigneur, moi j'ai pas choisi d'être là. Et j'ai pas, moi c'est comme ça, tu me demandes de faire ça, mais j'y suis. Alors, c'est un gage important parce que je vous dirais que quand on est à la place où Dieu nous veut, le vent, la tempête, les tourbillons, les tsunamis, les raz-de-marée, et puis tout ce que vous voudrez, ça va souffler, ça souffle. Mais quand Dieu nous dit, tu es à la place, eh bien moi je serai avec toi dans cette place-là, peut-être que tu vas souffrir, peut-être qu'il va y avoir ceci, peut-être qu'il va y avoir ça, mais finalement, tu ne bougeras pas. Et personne ne mettra la main sur toi. Parce que là, on ne s'interpose pas contre un homme, on s'interpose contre le plan de Dieu. Et c'est bien la grande différence. Et Myriam est frappée par la lèpre. Elle est frappée de cette maladie terrible, et vous avez remarqué, il nous est dit qu'elle est frappée par la lèpre, et c'est Dieu qui la frappe, c'est pas le diable. C'est pas une contamination là avec laquelle elle aurait pu avoir contact avec quelqu'un qui avait la lèpre, non. Parce qu'elle est subite, elle est immédiate, elle est instantanée, et là c'est bien marqué, elle a été frappée par la lèpre par Dieu. Alors aussi pour guérir, elle et Aaron son frère doivent emprunter le chemin de la repentance vraie. Et nous le lisons dans le chapitre 12 et au verset 11. Alors quand ils ont pris conscience dans l'instant que Myriam était frappée, il nous est dit que Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. » Aaron va plaider pour sa sœur auprès de Moïse, pour que Moïse plaide auprès de Dieu. C'est formidable, hein, vous voyez ? Ça, c'est formidable. Et il comprend bien qu'en s'adressant à Moïse, à Aaron, pour plaider pour le cas de Myriam, à ce moment-là, finalement, il sait bien que le péché a été commis contre Moïse. Et Moïse, si jamais il se révolte, et si jamais lui, avec son autorité dont on vient de prendre tout à fait conscience, que c'est Dieu qui l'a mis là, alors il se dit, mais c'est perdu, c'est fini, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il va m'arriver? Qu'est-ce qu'il va nous arriver? Qu'est-ce qu'il va arriver à Myriam? Elle va mourir de sa lèpre. Donc, c'est pas de l'inconscience, hein, c'est bien une réelle conscience. On sait maintenant que cette subite maladie qui est emblématique du péché, hein, la lèpre, si vous le regardez dans toute la Bible et dans tous ses aspects, vous verrez qu'elle est synonyme de péché, la lèpre, n'est que la conséquence logique de la conduite, finalement, des détracteurs de Moïse, son frère et sa sœur. Et ils n'ont qu'une chose à faire, Après avoir peut-être des jours, des mois, des années, peut-être critiqué, à un moment donné, ça tombe. Et ça tombe dans un instant. Et la sanction tombe en un instant sur Myriam. Et la traduction du rabbinat nous dit ceci, c'est Aaron qui vient devant Moïse et qui lui dit « pitié mon Seigneur de grâce, ne nous impute pas à péché » et il dira le mot « notre démence et notre faute ». Là, il était question d'insensé, mais il est question dans le rabbinat français, il est question dans la traduction hébraïque de démence. Comment peut-on devenir fou? Eh bien, on devient fou par la jalousie, on devient fou par les frustrations, et on devient fou par les rivalités. On devient fou. Il est question de démence, qui rend les gens fous. Et on le sait bien, dans la vie autour de nous, les crimes passionnels, les règlements de compte, c'est quoi ça? C'est de la démence. Et c'est jugé par les tribunaux. Notre démence. C'est-à-dire, et il ne va pas chercher midi à 14h, Aaron va dire, pour plaider pour Myriam, il va dire, mais nous sommes coupables. Eh bien moi je voudrais vous dire que c'est quelque part formidable. Parce que des hommes comme Aaron, qui vont s'incliner, des hommes comme David, avec les péchés qu'il a faits, eh bien ils ne vont pas chercher midi à 14h, ils vont dire tout simplement, nous avons péché. Et ça, mes frères et sœurs, c'est la possibilité à Dieu de nous délivrer de nos frustrations, de nos lèpres, de nous délivrer de nos péchés, de nous délivrer de notre démence et de notre folie. À partir du moment où nous reconnaissons que nous avons péché, mais le Seigneur va faire quelque chose pour nous. Et moi je crois que quelque part il y a des frères et des sœurs qui là, eh bien, n'ont jamais voulu reconnaître. Ils avaient raison, ils ont encore raison. Eh bien, ils ne sortiront jamais de leur prison. Parce que la porte de la prison, elle passe par une reconnaissance de nos fautes et par la repentance. Et ça, ce n'est pas à nous de le dire, ce n'est pas aux hommes de le dire, mais c'est le Saint-Esprit qui leur dit et qui leur redit et qui leur redira jusqu'à la fin. Parce que ce n'est pas contre un homme, ce n'est pas contre ceci et cela, mais c'est contre le plan de Dieu. Alors prenons garde que l'esprit critique n'est pas seulement une tendance de la faiblesse humaine, je le reconnais, on peut tous tomber dans le piège. Il n'y en a aucun qui peut dire, moi, la critique, vous comprenez. Je suis au-dessus. C'est parce que la personne ne se connaît pas bien. On a tous pratiqué la critique d'une manière ou d'une autre. On s'est tous plus ou moins livrés à cela. Alors ce n'est pas seulement une tendance de la faiblesse humaine, mais pour Dieu... Je vais vous donner ce que Dieu pense. Pour Dieu, c'est un péché. Et il n'y a pas d'autre mot. Critiquer, c'est un péché. La mauvaise langue, c'est un péché. Dire du mal de quelqu'un, c'est un péché. Lui asséner sur le dos toutes sortes de choses mauvaises sur son compte, c'est un péché pour Dieu. Et le seul moyen d'y remédier est de s'en repentir et de cesser de le pratiquer. Parce que on peut toujours dire, Seigneur, j'ai fait là une mauvaise chose. Alors, il faut aller demander pardon à qui nous avons blessé. Et puis après, il faut dire, Seigneur, tu m'aides à ne pas retomber dans l'ornière. Dans le psaume 141, je lis ce texte simplement, je le cite, versets 3 à 4, il est dit ceci, c'est une belle prière. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, n'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables, avec des hommes qui font le mal. Seigneur, mets une porte à ma bouche. Ouais. Alors ça ne veut pas dire qu'on va tous devenir muets. Alors on va apprendre le langage des mains. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais nous avons une bouche pour dire le bien, et nous n'avons pas une bouche pour dire le mal. La mauvaise langue... critiquer, dire du mal ou dire le mal de son semblable, calomnier, diffamer, alors là ça fait partie de la dimension judiciaire, donc correctionnelle, c'est, écoutez bien parce que vous allez comprendre l'implication que ça peut avoir, la lèpre de Marie, elle a une signification, c'est pas les autres qui ont eu la lèpre, c'est elle, et c'est elle qui a critiqué la première. Écoutez bien ce que je veux dire, c'est que la mauvaise langue et tout le reste... C'est rompre soi-même la jouissance de notre intimité avec Dieu. Vous avez remarqué à un moment donné, quand nous avons lu la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et vous lisez ces quatre petits mots qui viennent ensuite, c'est une phrase. Et il s'en alla. Et le Seigneur s'en alla. Eh bien, on ne peut pas avoir l'habitude de critiquer, l'habitude de naviguer dans cet océan qui n'est pas forcément très très bon et très sain, et dire « Le Seigneur est avec moi ». Le Seigneur n'est pas avec ceux qui critiquent. On peut se faire des idées, mais il n'est pas avec ceux. Là, dans cette circonstance, il nous est dit « Et il s'en alla, le Seigneur s'en alla, il n'est pas resté ». Et un chrétien qui vit dans cette mouvance, eh bien, va faire que lui-même, il va rompre la jouissance de son intimité avec Dieu. Peut-être il en aura l'illusion, mais le Seigneur ne l'approuvera pas. Vous savez qu'il y a eu tant de drames dans les églises, que l'on appelle des divisions, et qui sont nées finalement de choses qui ont été dites sur les uns sur les autres, d'une manière ou d'une autre, et qui n'auraient jamais dû être dites. Exhortons-nous à louer, à nous servir de notre bouche, à louer le Seigneur le dimanche matin, frères et sœurs. Si on était aussi vif à prier le mercredi soir ou le dimanche matin à louer le Seigneur, l'adorer, le bénir, ben je peux vous dire qu'il n'y aurait peut-être pas de place pour le reste. Ça va? Ouais. On continue. Non, mais si je ne le fais pas, hein, qui va le faire, hein? Ça, c'est mon travail, hein, mes frères et sœurs. Je ne peux pas dire que je suis au-dessus du panier, hein. J'apprends en même temps que vous, hein. Mais une chose qui est certaine, c'est que il y a des choses qu'on n'enseigne plus dans les églises. On perd notre temps à toutes sortes de choses qui sont même plus spirituelles. Eh bien, au moins, ouvrons la parole de Dieu et méditons sa parole au Seigneur. Parce que le Seigneur est toujours attentif à la façon dont nous traitons les autres. Qui plus est, les membres de son corps. C'est-à-dire, le rapport que je peux avoir avec mon frère, ma sœur, avec les membres de la famille de Dieu, c'est normal. Écoutez, si nous devons nous le rappeler, ça c'est aussi hein, une parole qui a été donnée dans la Bible. Écoutez, si quelqu'un dit, c'est dans 1 Jean chapitre 4, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Une logique, hein. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Mais oui. Et en final, c'est se faire du mal à soi-même. Moi, j'ai vu des enfants de Dieu, des chrétiens, qui se sont fait un dommage considérable. Parce que leur habitude, fâcheuse habitude, c'était toujours de parler sur le compte des autres. Et j'ai vu même que certains, ils n'étaient même plus chrétiens aujourd'hui. Plus chrétien aujourd'hui. Et ce n'est pas le but du Seigneur. La médecine des hommes reconnaît et soigne les effets nocifs de l'esprit critique qui génère une foule de troubles émotionnels et psychos aux répercussions somatiques. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelquefois, il y a des gens, et j'en ai vu souvent à l'imposition des mains, « Ah là là, j'ai mal ici, j'ai mal là, etc. etc. » Ils sont allés voir une foule de médecins qui leur a dit « Non, je ne trouve rien, il y a un fonctionnement normal. » Mais jusqu'au moment où on s'est aperçu que c'était pas l'extérieur, enfin les organes, les membres qui souffraient, mais c'est parce qu'à l'intérieur, il y avait du ressentiment, il y avait de la haine, il y avait quelque chose, et qui avait finalement eh bien là des conséquences sur notre vie physique. C'est ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Et quelquefois, certains pourraient peut-être dire, eh bien voilà, mais est-ce que je n'ai pas besoin de m'examiner pour savoir si dans telle ou telle situation, il n'y aurait pas des choses à régler avec moi-même? Or, Jésus nous prévient, puisque je vous ai dit que la mauvaise langue, c'est un péché, Jésus nous prévient quand il nous dit ceci, quiconque se livre au péché devient l'esclave du péché. Voilà. Donc on se renferme soi-même dans la prison. Personne n'aurait l'idée de dire, tiens, je vais aller faire un petit tour en prison, j'ouvre la porte, et puis je me renferme à l'extérieur, et je mets la clé par-dessus les barreaux, puis maintenant j'y reste. Ben, c'est exactement ce que l'on fait. C'est exactement l'image que l'on prend, vous comprenez? Ça, c'est sûr, que l'on saisit comme cela. L'esprit critique Eh bien, à ce côté un petit peu bizarre, c'est qu'il aime à s'exalter lui-même. Ça devient une friandise de critiquer. Il y a des gens qui ont pris cette fâcheuse tendance et ils ne peuvent pas dire un mot et tourner de droite et de gauche en disant « son, 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 son ». Ouais. Alors à ce moment-là, si vous êtes comme ça, eh bien, allez travailler chez, je ne sais pas moi, ici Paris, dans les journaux, vous savez qui sont people là. Alors vous allez avoir du travail. Hein. Vous savez ces journaux qui sont comme ça là. Non, non, mais dans l'Église, ça n'existe pas, ça. Il y a un peu plus de sérieux, un peu plus de considération pour les autres. Mauvaise habitude de penser ou de croire que nous sommes autorisés, que nous sommes habilités à juger. Et on se met sous le coup d'un jugement divin, puisque Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 7, donc dans le sermon sur la montagne, il dit « Ne jugez point !» Parce que si nous jugeons selon les apparences et non pas selon la vérité, alors quand ça sera le tour où vous serez jugé, je peux vous le dire, on prendra la mesure que vous aurez jugé les autres, et cette mesure, elle sera serrée, elle sera secouée, et elle débordera pour votre compte. Vous savez, il y a quelque chose de terrible, et Jésus l'a mis en parabole, c'est les gens qui sont sans miséricorde, impitoyables pour les autres. Impitoyables pour les autres. Alors, il faut bien qu'ils se disent un jour ou l'autre, il faut passer à la casserole, hein, excusez-moi pour la casserole. Ça sera peut-être la cocotte minute, ou autre chose. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres raisons secrètes d'amener les gens à mal parler? Et peut-être. Parce que critiquer est un excellent, mais toujours trompeur, moyen de cacher ses propres défauts ou ses fautes en, finalement, dressant bien haut le mur de la condamnation d'autrui pour ne pas être soi-même découvert par les autres. Et quelquefois, on a assisté à des spectacles assez particuliers, pitoyables, où des gens ont fustigé d'autres personnes en mettant en évidence leurs fautes, alors qu'en secret, ils le faisaient eux-mêmes. C'est ce que Jésus dit, enfin, c'est ce que Paul écrit dans Romains, au chapitre 2, quand il dit « Mets-toi le juif, qui juge les autres, et qui finalement, eh bien, pratique la même chose. » Parce que quelquefois, ça fait toujours un effet auprès des gens, en disant « Oui, oui, il est ceci, il fait cela. » Alors comme ça, on se dit « Bah oui, si lui le dit, c'est que il n'y a pas de problème. » Mais quelquefois, on a souvent vu que c'était ceux qui ont critiqué avec le plus de virulence, qu'un jour ou l'autre, le pot aux roses s'est découvert et on s'est aperçu qu'ils étaient pires que tout le monde. Ouais. Parce que nous essayons de nous mettre en critiquant au-dessus de tout soupçon, alors que c'est pas toujours ça. Et l'effet de juger les autres nous laisse l'impression que nous sommes finalement, eh bien, il n'y a rien à dire. Ça, c'est le réflexe d'Adam. Vous connaissez le réflexe d'Adam? Vous connaissez la pomme. Mais vous ne connaissez pas le réflexe d'Adam. Alors, on va voir un peu. Réflexe d'Adam, c'est le livre de la Genèse. Alors, je ne vais pas trop raconter l'histoire, parce que vous la connaissez fort bien. Mais la femme est séduite par le serpent. La femme séduit Adam. Il partage, il mange, etc., etc. Et au bout d'un certain temps, hop, ils se retrouvent, ils se disent « Ah ben non, mais il y a quelque chose qui a changé dans notre vie. » Et puis, sur le soir, quand le Seigneur se promène, parce que ça lui arrive à Dieu de se promener, hein, à la fraîcheur, dans le jardin d'Éden. Alors, Dieu, donc, quelque part, il faut que je me trouve à la bonne page, il dit que les yeux de l'un et de l'autre se sont ouverts. Et là, eh bien, le premier réflexe qu'ils ont eu, ils se sont aperçus qu'ils étaient nus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris. Ah, c'est pas du Christian Dior et les grandes maisons de couture, hein. Mais ils ont pris des feuilles de figuier et ils se sont fait des ceintures. Ils se sont dit, avec ça, il n'y a pas de problème. Ça y est, tout est revenu normal. C'est bien. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin sur le soir. Et Dieu a dit, mais où es-tu, Adam? Et si Dieu demande ça, c'est parce qu'il savait très bien où était Adam, mais il fallait qu'Adam réponde à la question. Comme nous avons toujours à répondre aux questions que Dieu nous pose. Et à ce moment-là, eh bien, Adam lui a dit, mais on a eu honte, et pourquoi t'as eu honte? Et puis ceci et cela, il y a un petit dialogue qui se fait. Et qu'est-ce qu'il fait Adam pour... Il avait peut-être bien des feuilles de figuier, mais il n'avait pas pensé au reste. Quand Dieu lui dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, tout de suite, Adam dit, mais c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Donc c'est pas, moi je suis pas responsable, c'est elle. Mesdames, hein, vous en voudrez pas Adam, hein, parce qu'on en parle depuis des siècles et des siècles. Hein. Mais toujours est-il que... Et après la femme, qu'est-ce qu'elle a dit? Ah ben c'est pas moi, c'est le serpent. Pam, 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 pam. Et aujourd'hui, le réflexe c'est quoi? Ah c'est pas moi, c'est l'autre. C'est pas moi, c'est la société. C'est pas moi, c'est le président de la République. C'est pas moi, c'est les Américains avec leur... bon d'accord, et ceci et cela. Mais c'est toujours quelqu'un, mais c'est jamais soi. Et quelquefois on se met à juger, à accabler les autres, parce qu'on se dit, pas de problème, tant que je ferai ça, personne n'y verra rien. Ouais. Mais il y en a un qui voit tout en tous les cas. Peut-être qu'en faisant ce genre de pratique, eh bien là, on s'imagine qu'on se libère de l'attention de nos semblables, écartant les projecteurs de nos propres faiblesses, mais ce n'est que du camouflage, et tout ça, vous savez comment ça s'appelle? Une ceinture de feuilles de figuier. Tout simplement. Il y a un proverbe allemand qui dit ceci. Écoutez bien. Moi, j'aime bien les proverbes. Je les trouve un petit peu partout. Le médisant a le diable sur la langue. Mais si tu l'écoutes, tu vas l'avoir dans l'oreille. Boum, paf. Et boum. Ça redescend dans le cœur. Et après, je veux dire... On m'a dit, tu sais ce qu'on m'a dit, tu ne le répéteras pas à personne. Et l'autre, vous refilez le virus, il l'a dans l'oreille, il l'a dans le cœur, et tout, ça s'en va comme ça. Eh ouais. C'est comme ça que ça se passe. La moralité de ce petit proverbe, c'est qu'on fait plus de mal qu'on le pense à celui qui nous écoute dire des mauvais propos, qu'on en fait à celui dont on parle dans son dos et qui n'entend rien. Parce que moi, si vous me critiquez et que j'entends pas, vous pouvez y aller, hein. Ça me dérange pas. Mais par contre, je fais du mal, si je critique, je fais du mal à mon frère qui m'écoute de m'entendre dire du mal de quelqu'un d'autre. C'est logique. Cependant, il y a une sévère sentence divine qui nous dit ceci dans le psaume 101, verset 5. Celui qui calomnie son prochain en secret, connaissez la suite, j'ose le dire, hein, Dieu a dit je l'anéantirai. Je vais bientôt finir. Se livrer à la critique est une source de souffrance pour tout le monde. Et ça afflige tout le monde. Dans une famille, quand il y en a un qui a une langue de... Psst, on l'appelle sa langue bien pendue. On ne la voit pas pendre, mais bon. Ça met la zizanie partout. Dans une église, quand il y a quelqu'un qui ne peut pas se passer de raconter des choses et ceci et cela, eh bien, je peux vous dire que ça vous met une atmosphère terrible, hein. Alors, c'est une souffrance pour tout le monde. Des gens savent où ils en sont. J'avais confiance dans celui-ci, mais comme on m'a dit qu'il était ceci, qu'il était cela, moi je ne sais plus où j'en suis rendu. Hein. On infecte, on pollue, on empoisonne. Et nous avons besoin de préserver notre entourage de paroles négatives sur autrui. Ayons, mes frères et sœurs, le réflexe de sauvegarder la paix, l'unité, le climat de confiance, la famille de Dieu. Au moins, soyons matures et soyons raisonnables. Ayons ce réflexe. Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus? Mais si je dois parler de mes problèmes ou de mes difficultés, mais vous ne croyez pas que le Seigneur peut tout entendre et qu'il est là à mon écoute pour m'aider, au lieu de le répandre à l'horizontale? C'est la marée noire. Hein. Dans le livre des Hébreux, il nous est dit « Racine d'amertume poussant des rejetons, veillez à ce que cela ne produise pas auprès de plusieurs, finalement, eh bien du trouble, et que finalement tout le corps soit infecté, créateur d'ambiance et d'atmosphère délétère qui fait suffoquer tout le monde. » Ou dans une épître, Paul pourra dire au chapitre 4 et au verset 26, me semble-t-il, quand il parle que tout ce qui sort de votre bouche serve à l'édification et non pas à la démolition. Et un peu plus loin, il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et moi, je crois que, quelquefois, des familles, familles chrétiennes, des églises chrétiennes, des assemblées ont été polluées, et le Saint-Esprit est parti parce qu'il est attristé de voir ce qui s'y passait. Si l'on doit parler, et là, c'est le côté positif, parlons en vérité. Qu'est-ce que ça nous coûte? Mais c'est normal pour un chrétien de parler en vérité. Jugeons selon la vérité et en toute justice. Et pour avoir ou pour savoir la vérité des faits sur quelqu'un ou sur ceci ou cela, au moins ayons le minimum de courage d'examiner les deux parties en question. Il y a un proverbe qui nous dit que celui qui n'entend qu'un son n'entend qu'une. Ouais. Mais quelquefois, parce qu'il y a des amitiés, parce qu'il y a des affinités, parce qu'il y a des sentiments, parce qu'il y a des... Oh, toutes sortes de choses, mais je viens rentrer en considération de tout ça. Mais même un ami, s'il déraille, il faut lui dire qu'il déraille. Il faut lui dire tu parles mal, tu tiens mal. Il faut lui dire c'est encore une bénédiction pour lui. Mais si moi qui suis son ami, je lui dis « Mais t'as raison, tu sais, hein, c'est comme ça, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lui faire perdre son salut. Et je serai complice finalement. » Faut savoir le faire avec douceur. Faut savoir le faire avec des sentiments d'amour. C'est pas de prendre la matraque en disant « Écoute, hein, montre ta tête et boum !» à chaque fois. Non, c'est pas ça. On ne doit pas se comporter comme ça dans l'Église. Certainement pas. Redresse avec douceur. C'est comme ça que c'est dit. Et ça, c'est une distinction spirituelle, moi je le... Mais au moins, regardons les deux côtés, il y a certains qui sont allés complètement dans la nature, et qui aujourd'hui sont malheureux, parce qu'ils ont entendu tellement de choses, mais ils n'ont pas entendu la version de l'autre côté. Et ça s'appelle de la partialité. Et ça, il y a un écho dans la Bible, où il nous est dit que Dieu aime les balances justes. Ne nous laissons pas entraîner à prendre parti sans le recul nécessaire où nous avons besoin d'examiner ce qu'on nous dit. Cessons d'agir en nous servant de notre bouche à des fins de discrédit parce que tôt ou tard la bénédiction de Dieu prendra fin et cessera de couler par nous et en nous. Jésus le dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et c'est par tes paroles que tu seras condamné. Et c'est par tes paroles que tu seras justifié. Dixit, Matthieu 12, verset 34. Donc, pour une bonne communion à Dieu, entretenons une bonne relation. Et quand je dis relation, ça passe par la conversation qui soit vraie, qu'elle soit loyale et surtout fraternelle avec ceux et celles qui sont unis avec nous dans la famille du Seigneur, sans pour autant aussi oublier ceux du dehors, et qui voudraient entrer dans la famille de Dieu, et je peux vous dire qu'il y a un obstacle qu'ils vont rencontrer, si tel est le cas, c'est que s'ils entendent des critiques au milieu de nous, parce que la critique souille, et parce qu'ils entendront des critiques, ils viennent du monde, ils entendent des critiques, ils entendent tout ça, mais ça c'est le monde. Mais si dans l'Église ils entendent la même chose, je peux vous dire que ceux pour lesquels nous prions, nous faisons des réunions de prière, sauve-les, et commencer par les membres de notre propre famille, s'ils entendent cela de notre bouche, toutes les histoires qui peuvent arriver, je peux vous dire qu'à coup sûr, eh bien vous pouvez arrêter de prier parce qu'ils rentreront jamais, ils se convertiront jamais, ils ne viendront jamais dans l'Église de Dieu. C'est logique. C'est une affaire de témoignage, mes frères et sœurs. Et si certains petits malins ont pensé qu'il fallait répondre les choses à l'extérieur, où là il n'y a plus de confidentialité alors qu'il y a des choses qui sont saintes, alors vous donnez les perles au pourceau, et je peux vous dire que vous pouvez prier jusqu'à la fin de votre vie pour dire « Seigneur, sauve mon père, sauve ma mère, sauve mes enfants ». Mais si à table, dans des repas de famille, ils vous entendent critiquer de ceci et cela, eh bien vous pouvez arrêter tout de suite. C'est pas la peine. On est rempli d'amour. Et les paroles, quand on est rempli d'amour, les paroles sont aussi des paroles d'amour. Alors, ça fait deux fois que je dis que je vais terminer, mais je termine. Si le penchant existe, demandons à Dieu de nous aider à le remplacer, parce que le Seigneur fait des réparations. Quand vous avez une voiture, hein, si c'est de carburateur, le mécanicien va vous dire, eh bien votre carburateur il est mort, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va pas vous dire, vous changez la voiture, il va vous dire, on va vous remplacer le carburateur, on va le réparer. Alors, il y a des choses qui sont là, défectueuses, c'est possible. Alors, il va y avoir un remplacement. Et si nous avons besoin de remplacer une mauvaise chose par une bonne, eh bien écoutez, Dieu va nous aider à remplacer tout cela par un esprit d'amour, un esprit de douceur et un esprit de patience. Vous vous souvenez ? Moïse était l'homme le plus patient et le plus doux de toute la terre. Il ne l'était pas, mais il est devenu. Et il y a des possibilités, hein. Et nous permettre d'accepter l'autre tel qu'il est, même s'il se marie avec une femme éthiopienne. Après tout, ça ne vous regarde pas, hein ? Ben non. Eh ben oui, Moïse, eh ben c'est ça, il a choisi comme ça, et puis c'est tout, hein. On n'a pas besoin de cancaner autour de tout ça. Et puis même, si c'est Dieu qui l'a mis en place, Moïse, qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que nous avons à dire? Qu'est-ce que Myriam avait à dire et à Aaron? C'était Dieu qui l'avait mis en place. Et il n'était pas seulement mis en place, mais Moïse était l'autorité déléguée par Dieu pour remplir une fonction. Et bien d'autres choses. Et le secret du rétablissement pour le fautif, je pense à Marie, qui s'était égarée par ses lèvres, c'est celle-ci, à partir du verset 13, Moïse qui est un magnanime, qui est un débonnaire. Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je te prie, guéris-la. » Vous savez, j'ai vu dans le ministère qu'il y a des gens qui avaient tellement critiqué d'autres, et parfois même des ministères, ces gens sont tombés malades, et Dieu leur a dit, « Tu veux être guéri ? Eh bien, tu vas aller voir maintenant celui que tu as critiqué, c'est lui qui va t'imposer les mains, et c'est comme ça que tu guériras. » Je peux vous dire qu'à ce moment-là, ça fait un drôle d'effet. On l'a vu, ça. Tu ne passeras pas par la guérison, sinon que par celui que tu as critiqué. Celui que tu as démoli, celui que tu as mis plus bas que terre, et ta guérison viendra que dans la mesure où tu iras t'humilier, et que ce sera lui qui t'imposera les mains. C'est ce qui se passe. C'est Moïse qui prie, là, dans cette affaire. Vous savez, il faudrait y réfléchir à tout ça. Parce que moi, je crois que le Seigneur va faire des choses étonnantes, mais il le fait pour notre instruction, c'est pas pour que nous soyons détruits, mais pour qu'au contraire, nous vivions. Alors, nous voyons que au verset 13, nous l'avons lu, et au verset 15, Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y soit rentrée. Elle avait péché par ses lèvres et elle s'est rattrapée la lèpre. Nous voyons qu'il y a une intervention miséricordieuse de Moïse. Moïse n'en voulait pas à sa sœur, et tout le désagrément que ça avait pu causer dans la famille. Donc il va prier. Il y a une mise en quarantaine. Quarantaine, 7 jours, c'est déjà pas trop long. Et il n'y a que redépart que dans la chose, dans la mesure où toutes les choses sont faites comme le Seigneur. Et je m'arrête sur le verset 16 pour finir. Il nous est dit qu'au verset 16, « Après cela, le peuple partit de Hatséroth et il campa dans le désert de Paran. » Ce qui veut dire qu'il est parti d'un endroit qui s'appelait Hatséroth. Et Hatséroth, ça veut dire village au pluriel en hébreu. Village au pluriel en hébreu. Et un village ou des villages, c'est quoi? C'est là où les hommes se regroupent pour habiter. Ils coexistent, ils cohabitent, ils se parlent, ils se connaissent, ou ils se reconnaissent. Mais essayons de vivre dans le même village, en vivant en bonne intelligence, et selon la parole de Dieu. Alors ils sont partis de Hatséroth, et ils sont allés jusqu'à Paran, Paran. Et Paran, ça veut dire verdoyant. Ce qui montre bien que Dieu, quelquefois, là, nous arrête dans une situation, nous sommes en stationnement pendant un temps, et pour retrouver finalement le rayonnement, pour retrouver la vie, pour retrouver la puissance du Saint-Esprit, eh bien, il faut que les choses soient accomplies, et là, Dieu nous conduit véritablement jusqu'à Paran, pour nous dire encore une dernière fois, c'est que nous avons besoin d'enlever au milieu de nous les pierres et les rochers qui obstruent le courant de la bénédiction divine, et qui peut être arrêté tout simplement par la mauvaise langue. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Alors Seigneur, aide-nous les uns et les autres, et peut-être aussi, peut-être, pardonne-nous nos péchés de la langue. On va prier, je demande à Michel. Merci Michel.
Notre Père, c'est vrai que Seigneur, nous sommes des imparfaits. Parce que Seigneur Jésus, nous demeurons dans le péché, mais par ta grâce, tu as bien voulu poser tes regards sur nos vies. Tu nous as amené, Seigneur Jésus, jusqu'à ta personne, par les témoignages d'un frère, d'une sœur.
Oui.
Quelle grâce.
Ouais.
Quelle grâce d'avoir connu, Seigneur Jésus.
Les bonnes paroles qui sauvent.
Cette personne qui nous a amenés dans ta maison pour la première fois, où nous avons pu entendre ces paroles merveilleuses que tu nous as données encore ce matin, Seigneur. Apprends-nous. Vraiment, nous sommes des apprentis devant toi.
Oui, c'est vrai.
Chaque jour, nous avons besoin d'apprendre, Seigneur. Alors, je te demande pour ma part d'apprendre encore de toi.
Oui, s'il te plaît.
De pouvoir vraiment, Seigneur,
apprends-nous à aimer
ma foi, celle de mes frères et sœurs, pour marcher vraiment, Seigneur, dans cet amour que toi, Seigneur, que de ton cœur découle l'amour. Seigneur, combien nous voulons boire à cette source merveilleuse. Aide-nous, Seigneur Jésus, à marcher dans la sainteté, à ne pas être des cris de cœur, à ne pas être
ouais.
des gens, Seigneur Jésus, qui tournent le dos à la sainteté.
Mais oui, Jésus, fais-nous grâce.
Tu nous apprends et tu nous invites à marcher dans le chemin de la vérité. Tu es la vérité, la lumière. Alors, Seigneur, apprends-nous, chacun pour notre part, à vraiment te voir tel que tu es, Jésus. tu es venu en simple homme et tu veux nous délivrer de tout ce qui ne te glorifiera. Alors Seigneur, aide-nous en prenant ce pain, en prenant ce vin, nous voulons vraiment t'honorer Jésus et te porter.